Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kerrot.
Vous écoutez RMC.
On va revenir sur ce Lyon-Nantes, pas tant pour le résultat, pour la performance des Lyonnais et des Nantais, mais plutôt pour la sonorisation de l'arbitrage. Ça t'a inspiré un avis, mon cher Thibault. Tu t'es posé la question, est-ce vraiment une bonne idée? Alors que cette initiative semble séduire la grande majorité des supporters de foot, des spectateurs de foot, même des arbitres, et même de la Direction nationale de l'arbitrage. Tu te demandes s'il faut vraiment absolument tout entendre, tout voir, tout savoir, avis tranché. Thibault Leplat.
Dans ce cas de figure-là, plus tu rates en fait.
Le plus court, c'est le plus bref, c'est sans doute la meilleure saucisse.
Alors pourquoi tu n'es pas convaincu par ce procédé, par cette évolution-là?
Alors je ne sais pas que je ne suis pas convaincu parce que je faisais partie de ceux qui depuis le début le défendaient plutôt cette initiative. Non, c'est simplement l'idée de parler d'un phénomène qui a deux faces et qui pour moi sont symptomatiques de la même idée. À savoir, d'un côté, le spectacle de l'arbitrage qui peut être mis en scène par la sonorisation. C'est l'idée que le diffuseur préfère avoir accès aux conversations. Et faut-il l'entendre en direct? Ne faut-il pas l'entendre en direct? C'est l'idée que on va enrichir les retransmissions en essayant de deviner ce que va dire l'arbitrage. Donc ça, c'est la première phase de ce phénomène-là, qui serait le spectacle. Mais la face obscure de ce phénomène-là, ce phénomène de la vérité, c'est-à-dire on va avoir accès tout à coup à la vérité du match, c'est ce qui se passe en Espagne. C'est la vérité aussi de ce qui se passe sous les choses qu'on ne veut pas voir, c'est les problèmes de la corruption arbitrale dans le cas de l'Espagne. Et c'est-à-dire, dans ces deux cas en même temps, qu'est-ce qui est commun à ces deux-là? C'est la question de la transparence. Est-ce que on veut absolument tout savoir? Et pourquoi est-ce qu'on veut savoir? Pourquoi est-ce qu'on veut sonoriser? Est-ce qu'on veut sonoriser pour des questions de spectacle ou parce qu'on veut entendre la vérité de ce qui se passe? Est-ce qu'on veut du show? Est-ce qu'on veut ajouter de l'intensification de la retransmission? Mais est-ce que ça nous intéresse véritablement ce qui est dit? Est-ce que c'est le fond ou la forme qui nous intéresse? Parce que si on s'intéresse au fond de la relation de l'arbitre au jeu, si on s'intéresse véritablement à l'intervention de l'arbitrage dans un match, à mon sens, ce sur quoi il faut insister, c'est pas sur l'arbitre en lui-même, c'est peut-être intéressant ce qu'il veut dire, mais c'est sur le règlement. C'est ça qui est intéressant. Si on veut véritablement faire quelque chose, sortir par le haut et pas faire l'erreur qu'on a commise sur la VAR, c'est-à-dire que tout de suite on s'est précipité à tout filmer, à tout remettre en question. Là, à mon sens, il faut que la réflexion soit menée sur les visées de cette initiative. Est-ce que on veut tout savoir et comment on veut savoir et dans quel but? Et moi, je propose un but qui est la pédagogie. La pédagogie vis-à-vis du règlement. On ne parle jamais des règles du jeu, on ne parle jamais comment elles sont appliquées. Pourquoi? Parce que je ne souhaite pas que le débat porte ensuite sur les personnes des arbitres. Parce que si on se met à écouter les arbitres, les uns derrière les autres, ah, un tel il parle comme ça, un tel il a un accent, ça devient un spectacle, et on ne s'intéresse plus du tout au jeu. Donc voilà, et c'est ma crainte.
En fait, tu ne seras plus bon par ta performance en tant qu'arbitre, mais exactement. Également sur la façon que tu as d'expliquer
et c'est pour ça
ta personnalité
ta voix, également.
Ton accent, ta personnalité,
il faut absolument que.
C'est la volonté de la DNA, humaniser les arbitres.
Oui, mais c'est pas.
Ce sont des amoureux du football, des passionnés de football également.
Humaniser l'arbitre, c'est pas les folkloriser. C'est expliquer un règlement, c'est pas se justifier. Il faut que les arbitres absolument soient là comme ceux qui incarnent la règle du jeu. Il n'y a pas de jeu sans règle. Ils sont les garants de la règle. Et tu peux pas. La parole de l'arbitre n'a pas la même valeur que la parole d'un joueur. Donc, je pense que dans le cas de la sonorisation des arbitres, et d'une manière générale, dans le cas de l'arbitrage, il faut bien se rendre compte que l'arbitrage, à mon sens, n'exige pas la transparence à tout prix. On ne peut pas faire une transparence à tout prix parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas savoir et qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dans les vestiaires, ce qui se passe dans la tête d'un joueur, ce qui se passe sur une action de l'extérieur depuis notre salon. On peut pas intervenir.
Donc, tu parles de voyeurisme un peu quand même là.
Une forme de voyeurisme. Ouais. La transparence, c'est une forme de voyeurisme si elle est faite dans le seul but d'être transparent et dans le seul but du spectacle. Il ne faut pas que le spectacle de la transparence se substitue à la vérité. Et à mon sens, la vérité de cela, et après je m'arrête, Nico, la vérité de cette affaire là, c'est comment ces hommes applique un règlement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comment on va, par exemple, la question de l'erreur manifeste dont tu parles, dont on parle souvent. L'erreur manifeste n'a jamais été définie. On ne sait pas. Alors que c'est une notion qui existe en droit administratif. C'est une disproportion entre la sanction, entre la décision et le fait. C'est quelque chose dont on ne parle jamais. Or, les arbitres doivent s'expliquer là-dessus, sur l'interprétation du règlement. À cet instant-là, j'ai considéré qu'il y avait erreur manifeste ou pas. Point. On n'est pas là pour discuter de savoir s'il parle bien à l'arbitre, si frérot c'est une insulte ou pas une insulte. On s'en fiche, c'est pas ça le problème. Or, moi, j'ai l'impression que cette unanimité autour de la sonorisation des arbitres a tendance à substituer à la question de la vérité du règlement la question purement artificielle du spectacle.
Bon, des réactions évidemment beaucoup sur les réactions nous disent mais nous on veut savoir ce qui se passe, ce qui se dit effectivement. C'est le cas du rugby depuis de nombreuses années
au
déjà.
Au bout d'un mois, au bout de deux mois, on en aura
et
assez.
Je pense que la sonorisation top 14 ou même dans le tournoi de destination a permis des vertus pédagogiques. À n'importe quel spectateur de comprendre mieux les règles du rugby.
On l'entend
aussi.
Sur certaines phases de jeu, on l'entend.
Je pense que c'est pas parce qu'on t'entend que tu es forcément que tu dévoiles forcément ta personnalité ou ta façon de l'expliquer.
Non, mais
tous les arbitres de rugby l'expliquent de la même façon. Oui, de manière très clinique, très théorique, et ça nous aide à la pédagogie, à la compréhension du jeu.
Avec une différence, c'est qu'effectivement, il y a la pédagogie aussi dans le commentaire de la décision. C'est-à-dire qu'on se tait pour écouter ce que dit l'arbitre. Et ensuite, on interprète ce que dit l'arbitre au regard du règlement. Et ça aide, effectivement, je crois qu'il y a les pédagogies. Dans le football, je suis pas sûr qu'on soit prêt pour ça.
Il faut bien commencer.
Est-ce qu'on est prêt pour se taper les jurisprudences, se taper la doctrine de l'arbitrage?
Non, mais ça va assez vite, je pense, moi. En quelques secondes, ça peut
être raconté. Je le souhaite vraiment parce que c'est très intéressant.
Il y avait un autre argument, mon cher Thibault, c'était aussi de discipliner les joueurs. La sonorisation, entendre ce que le rapport, l'échange entre l'arbitre et le joueur, permet à l'arbitre d'avoir une meilleure autorité sur le joueur qui sait qu'il est filmé, qui sait qu'il est désormais entendu également.
Au joueur de contrôler son langage.
Tout à fait.
Probablement.
Exactement.
J'avoue très franchement que j'entends Thibaut, je n'arrive pas à avoir un avis net sur cette question. Autant pour le VAR, j'ai eu un avis assez net et je comprenais, j'envisageais tous les défauts que ça allait avoir. Autant ça, je sais pas. Il y a le côté humaniser l'arbitre avec toute la superficialité que ça pourra avoir me déplaît pas forcément parce que on leur a trop tapé dessus et on en a trop fait des robots et on a trop cru que c'était des mecs inutiles, des types qui aimaient pas le foot. Quand j'entends Benoît Millot, c'est pas un secret, dans l'after on le connaît, d'ailleurs on aimerait bien qu'il vienne un soir et que la Fédé
lui qui est officier pour le Lyon Nantes
et que la Fédé lui donne l'autorisation de venir dans l'émission parce que lui il est pas contre communiquer, c'est un vrai passionné de foot. Il adore ça. Et je suis sûr que les gens s'ils savaient à quel point l'arbitre aime le foot et peut se tromper. Et pourtant, Dieu sait que normalement, avec la machine, tu ne dois plus pouvoir te tromper, mais qu'il y a encore des erreurs. Et que il faut l'accepter, que lui l'accepte, que lui en souffre aussi quand il fait une erreur. Je suis sûr que ça plairait aux gens qui le trouveraient sympathique, alors que pour l'instant, j'imagine que lui, comme beaucoup, sont un peu des anonymes. On connaît un peu Turpin. Bon, allez, les arbitres, on les connaît un peu, quoi. On les connaît, mais on les connaît souvent pour des mauvaises raisons. Turpin, parce qu'il se la raconte, c'est le chef des arbitres. Le Texier, parce que beaucoup dans les clubs disent qu'il est pas bon. Enfin, c'est selon chaque club, on a le préféré ou pas le préféré, quoi. Bon. Sur ce point de vue-là, j'avoue que j'ai le côté on humanise. Après, est-ce qu'à terme, ça peut devenir un gadget? Thibaut a peut-être pas tort. Oui, c'est vrai.
Je pense qu'il faut banaliser la parole.
Ça peut le devenir. Est-ce qu'il faut faire que certains matchs et pas tous les matchs? Est-ce que ça suffirait pas simplement que le mec débriefe le match? Oui. Ou que, je sais pas moi, une fois par mois, il y en a un qui vient dans l'émission et qui dise, et qu'on lui dise, allez donc, sur tel match là, tu te souviens, il y avait eu une polémique et tout, et que lui, il explique. Et qu'il dise, ah ouais, mais j'ai fait ça parce que d'abord le règlement, peut-être que vous étiez pas au courant, mais c'est comme ça. Mm-hmm. Ou, le mec du VAR m'a appelé, j'ai regardé l'image, vous étiez d'accord ou pas? Nous, on sait pas. Nous, c'est pareil, on savait pas. Là, ça serait humaniser l'arbitre.
Sur certains moments, par exemple le moment de la VAR où on est totalement exclu du processus. Effectivement, je pense que dans la retransmission, ça peut aider. Ce que je veux dire, c'est que je comprends la contrainte du diffuseur qui est un peu de rythmer et qu'effectivement les moments de la VAR, le moment de l'arbitrage sont les moments où le spectateur est un peu exclu. Donc arriver à tenir ensemble cette contrainte du diffuseur et en même temps quand même l'idée que la transparence à tout prix, je suis pas certain que ce soit exactement ce qu'on veut.
Pierre est avec nous 32-16, il nous a appelé pour évoquer ce sujet. Salut Pierre.
Bonsoir à tous.
Bienvenue dans l'after Pierre. Salut. Alors tu es pour ou contre la sonorisation des arbitres?
Alors, c'est pas du tout justement la manière dont je voulais aborder le sujet. Je vais faire une petite allégorie par rapport à mon métier, parce que je travaille dans le conseil, j'accompagne des sociétés. Lorsqu'en gros, il y a des personnes qui veulent pas bosser ensemble, qui n'arrivent pas à travailler ensemble pour essayer de trouver des solutions. Et il y a souvent une erreur qui est faite, c'est de se battre sur des solutions, alors qu'on n'est pas d'accord sur le problème. Et là, j'ai un peu cette sensation sur l'arbitrage, c'est-à-dire qu'on se prend la tête sur la VAR, on se prend la tête sur la sonorisation, alors que personne, je pense, n'est d'accord sur c'est quoi le problème, en fait, de l'arbitrage. On va en parler aux joueurs, les joueurs, eux, vont penser que les arbitres sont mauvais. On va parler aux arbitres, peut-être qu'ils vont nous dire que les joueurs sont mauvais joueurs, sont de mauvaise foi. Donc déjà, si on arrivait peut-être à identifier quel était vraiment le problème, on pourrait peut-être être tous un peu plus d'accord sur les solutions et surtout trouver les bonnes solutions.
C'est juste, ouais. Je trouve que tu as raison et ça rejoint un peu ce que je disais sur la finalité. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est pour faire plaisir aux diffuseurs? Est-ce que
c'est un artifice spectaculaire?
C'est la raison pour laquelle tout le monde est d'accord, profonde. Peut-être parce que comme tout le monde voit un peu midi à sa porte.
Mais effectivement, ça fait partie du spectacle aussi, du show. Comment rendre la diffusion des matchs encore plus sexy, spectaculaire et transparente aussi. Moi, je suis convaincu aussi, Pierre, que si on entend les erreurs de l'arbitre, on aura plus d'indulgence pour lui.
Oui, je pense
qu'on soit spectateur, supporter.
Si on entend quoi, tu dis?
On est un peu tous trop, je pense, intransigeants. Bon, c'est un peu l'évolution de la société dans laquelle on est tous et sur beaucoup de sujets. Mais il y a cette espèce d'intransigeance, alors sans doute avec l'enjeu financier qu'il y a derrière, qu'on peut comprendre. Mais c'est aussi pour les fans derrière qui font plus parler l'émotion que la raison et une analyse qui est vraiment factuelle. Et où du coup tout le monde se noie là-dedans, essayer de trouver des solutions, je pense qu'on ne trouvera jamais. Mm-hmm. Au lieu de se poser la vraie question de comment on prend plaisir en regardant du foot. En
tout à fait. Tout à fait. T'as raison, Pierre. Ça peut paraître un petit peu superficiel en tout cas comme initiative, mais bon, ça n'empêche pas.
Ouais. Pas. Après, il faut quand même, je crois, j'insiste sur cette idée que la parole de l'arbitre ne vaut pas la parole des autres. On dit qu'il fait partie du jeu, mais sans lui, il n'y a pas de jeu possible. Donc, on ne peut pas considérer que sa parole soit égale de celle des autres. Il y a quand même une figure d'autorité. Tout entendre. Est-ce qu'on a envie d'entendre, par exemple, de sonoriser les professeurs dans les écoles? Est-ce qu'on a envie de sonoriser nos conversations dans les rédactions? Est-ce qu'on a envie de sonoriser? Tu vois, il y a aussi une part de secret qui est nécessaire pour le travail et pour l'interprétation de la règle. Donc tu peux pas tout sonoriser. Et c'est pas parce qu'on va tout sonoriser que tout à coup les gens vont se précipiter pour regarder la Ligue 1. Non, il y a un effet d'annonce, il y a un effet de nouveauté. Mais il faut, à mon avis, pas commettre l'erreur qu'on a commise sur la VAR. Moi, il y a un désaccord avec Daniel là-dessus. Moi, je suis plutôt pour la VAR, mais je trouve que qu'on n'a absolument pas pensé son usage. On l'a fait pour des raisons. On a substitué un problème éthique à une solution technologique, ce qui est absurde. Donc là, c'est pareil. En plus, on n'est pas d'accord sur le problème. Tu as parfaitement raison, Pierre. Je trouve que c'est très éclairant ce que tu dis. Effectivement, on n'est pas d'accord sur la finalité, sur quel est le problème. Donc, comment évaluer un outil dont on n'est pas capable de comprendre à quoi il sert en réalité?
Merci, Pierre, d'Orfel 32-16.
Merci à vous.
Merci à toi. Et tu reviens quand tu veux sur RMC. La vérité, c'est qu'on veut vraiment la sonorisation, juste pour cette raison-là. Écoutez.
Vous voulez un soin ou ça va aller?
Je vois plus.
C'est vrai que vous voulez un soin?
Dites-moi.
J'ai une petite gêne derrière la cuisse, je préfère m'arrêter là.
Ça va alimenter des jingles de
oui,
l'after.
Oui, bien sûr.
Pendant des années, d'ailleurs, on passe 20
du,
ans
le
là.
Le coup du soin, Benoît Millot a fait.
Il dit pas le soin.
Non, il dit vous voulez un soigneur.
Un soigneur, exactement, j'ai remarqué.
Oui, mais en même temps, alors quand j'ai lu, ça m'a fait rire et je me suis dit ouais, mais tu dirais quoi?
Mais exactement. Même à l'époque du soin, tu dis quoi en fait?
Non, mais est-ce que
vous voulez une assistance médicale?
Est-ce que tu dis si tu dois dire vous voulez
un soin
rendre, vous voulez
qu'on dise un soin, on dirait un soin quoi? Thalasso, massage, masque, concombre et argile.
Je me suis demandé ça ressemble à ça. Mais encore une fois, je me suis vous voulez un soigneur? Quand il dit ça, je me dis attends, comment je l'aurais dit moi? En langue, enfin, pour que ça fasse moins.
Ça fait un peu gommage, un soin.
La question,
un soigneur,
c'est,
ouais.
Vous voulez les soigneurs?
Est-ce qu'il faut du montage ou est-ce qu'il faut pas de montage? C'est ça la.
Je fais venir le doc.
Ouais, non, parce que. Non. Trop familier pour un arbitre. Un arbitre, c'est un peu un flic aussi, tu vois.
Alors, je vais venir le docteur.
Ouais. Docteur.
Vous voulez le médecin?
Viens voir le docteur.
Mais vous voulez un soigneur? C'est pas que ça fait un peu bizarre, quoi.
Et puis le vouvoiement, certains tutoient et certains joueurs tutoyaient dans
le. C'est intéressant ce que dit Bonomio d'ailleurs. Il tutoyait Andy Delors.
Et ça n'a pas été gardé.
Vous voyez les autres. Il a expliqué et a dit parce qu'avec Andy Delors, c'est comme ça qu'il faut lui parler. Ça, c'est intéressant.
Mais tu vois,
adaptation,
c'est les joueurs. Souvent, les arbitres s'adaptent et on le sait pas. Hein.
Mais si lui
c'est pour ça que c'est
pas,
intéressant. Moi, je suis pour.
Si lui s'explique pas, il y a certains qui vont s'indigner qu'il en vous voit plus l'un que les autres.